Bonsoir. Deux thèmes sont au menu de la tribune de la presse ce vendredi 26 mai 2016. Le procureur général de la République a annoncé mardi dernier avoir ouvert une enquête à charge du député national Clément Kankou. Le PGR justifie l'ouverture de cette enquête par l'écoute d'une vidéo qui suspecte l'implication du député dans les affres de guerre perpétrées dans la province du Kassai. Des allégations que rejette l'élu de Dibaya. Deuxième thème de ce soir, 25 mai 63, 25 mai 2017, voilà 54 ans qu'existe l'Organisation de l'Unité Africaine, OUA, actuellement Union Africaine. Cette organisation continentale fait face à plusieurs crises, notamment au Burundi, en Libye, au Mali et en RDC. On fera une analyse de l'implication de l'Union africaine dans la gestion des différentes crises en RDC et en Afrique. Pour en parler, je reçois Pius Roland Romain. Bonsoir, cher confrère.
Bonsoir, mon frère.
Vous êtes journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, émettant à Kinshasa. Dominique Dinanga, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère, et très heureux de me retrouver encore une fois dans ces studios.
Merci. Vous êtes journaliste à la radio Top Congo FM, émettant à Kinshasa. Baba Isaac Alongi, bonsoir.
Bonsoir, mon frère.
Vous êtes journaliste indépendant basé à Mbujima et au Kassai Oriental. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Commençons par voir comment la presse a traité les autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine dans cette revue de presse que nous présente Berry Franklin Luchaka. Bonsoir Berry.
Bonsoir Alain et bonsoir à tous. La presse de cette semaine s'est largement focalisée sur ce qu'elle qualifie de l'affaire Clément Kankou et sur d'autres sujets d'actualité comme la célébration de la journée de l'Afrique intervenue jeudi 25 mai dernier. Le PGR se saisit du cas Kankou, a rapporté mercredi Forum des As. Dans un communiqué remis à la presse, indique le journal, Flori Kabangenumbi affirme avoir ouvert des investigations à propos de l'élu de Dibaya conformément à l'esprit de l'article 75 de la loi organique du 19 février 2013, loi relative à la procédure devant la Cour de cassation. Pour sa part, le potentiel a relayé le communiqué de l'élu de Dibaya qui s'est dit concerné par ces allégations d'implication dans des actions criminelles qu'il réfute totalement. Le Phare remarquait dans sa livraison du mercredi même que l'étau se resserrait autour de Kankou, soutenant que l'affaire des massacres au Kassai vient de prendre une tournure dangereuse pour le député. Cette information a été aussi analysée dans la presse du continent. C'est le cas de l'observateur Palga du Burkina Faso qui s'est interrogé dans son éditorial de lundi 22 mai. Qui a bien pu balancer sur les réseaux sociaux ce document sonore et à quelle fin, s'interrogeait le confrère. Peut-être, tentait-il de répondre lundi, faut-il tendre l'oreille du côté des renseignements puisqu'il s'agit en effet d'écoutes téléphoniques réalisées par les services congolais et donc censées rester couvertes du sceau de la confidentialité. Mais de là, comment ont-ils pu se retrouver en accès libre et pour ainsi dire dans la rue? Ce sont des questions que le confrère du Burkina Faso ne sait pas du tout répondre. La presse revient aussi sur la réaction du gouvernement congolais à la décision de l'ONU de mener ses propres investigations autour du meurtre de ces deux experts du Kassai central. Le Phare rapporte ce vendredi que le chef de la diplomatie congolaise, Léonard Tshiokitundu, a, au cours d'un point de presse organisé hier jeudi, fait savoir que c'est à la justice militaire congolaise de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur ce qui s'est réellement passé au Kassai central au moment de l'élimination physique de Zaïda Catalan et Michael Sharp, les deux experts de l'ONU. Dans un tout autre registre, l'Avenir rapporte que le deuxième conseil des ministres du gouvernement Tshibalab devrait se tenir ce vendredi 26 mai. Et lors de ce conseil des ministres, le gouvernement devra adopter un projet de loi des finances pour l'exercice 2017 qu'il déposera au bureau de l'Assemblée nationale, croit savoir le quotidien. Pourtant, compte tenu du temps qui reste, l'examen et le vote du dit budget 2017 ne peuvent pas être possibles pendant la session en cours, soutient pour sa part Forum des As. Enfin, le monde a célébré hier jeudi 25 mai la Journée mondiale de l'Afrique sous le thème « tirer pleinement profit des dividendes démographiques en Afrique en investissant dans la jeunesse. Le site d'information radiocapi.net rapporte que le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en RDC, Abdou Abari, a appelé le gouvernement congolais à ne pas négliger la jeunesse, étant donné que 68% de la population congolaise à moins de 25 ans.
Merci Berry Franklin Louchaka. Un autre sujet qui a fait l'actualité cette semaine, avant que l'on revienne avec force détails sur les sujets que nous allons aborder ce soir. Vous le savez, la RDC compte le plus grand nombre de personnes déplacées internes au monde, soit 3,7 millions. C'est ce qu'indique le rapport global du Centre de surveillance des déplacements internes publié conjointement avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC lundi 22 mai à New York. À cet effet, le Conseil norvégien pour les réfugiés alerte la communauté internationale et les bailleurs des fonds sur le besoin de renforcer urgentement le financement en RDC pour la prise en charge des déplacés. Plus Roland Romain, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir émettant à Kinshasa, 3,7 millions de déplacés internes, c'est énorme.
C'est trop énorme, comme vous venez de le soulever. C'est presque la population de certains pays environnant la République démocratique du Congo. Et vous savez que lorsque nous étions sur le banc de l'école, on nous apprenait que la République démocratique du Congo, c'était une terre hospitalière. Mais malheureusement, l'hospitalité de la République démocratique du Congo s'est transformée en désastre. Les réfugiés qui viennent au Congo ne respectent pas ces statuts des réfugiés. Et il ne faudrait pas qu'on ouvre la boîte à Pandore. Il y a certains responsables de la République qui, jadis, ont étudié à Lubumbashi sous statut des réfugiés. Aujourd'hui, ils sont devenus des Congolais qui ont amené des massacres ici chez nous.
Je ne vous reprends pas la parole, mais là, il s'agit des déplacés internes causés par c'est une gestion que décrit plusieurs analystes, une mauvaise gestion de certaines crises à travers la nation.
La République démocratique du Congo n'est pas le seul pays qui traverse la crise économique. S'il y a des déplacés à l'interne, justement, il y a des cas à dénoncer. C'est les cas de rébellions qui se sont sévis à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous avons la milice prétendue de Kamwina Nsapu au centre de la République. Et ces déplacés-là, effectivement, payent le prix de certains responsables de la République. Vous venez de le dire ici, que le PGR a ouvert une enquête judiciaire incriminant un député de l'opposition qui venait d'être au gouvernement à partir des auditions, des écoutes. Et je me dis que le Conseil norvégien pour le réfugié a raison. Il faudrait que le pays, la communauté internationale, qui ne fait que marteler sur la République démocratique du Congo, doit intervenir dans ces cas, puisque ces personnes-là sont des réfugiés. Nous avons le Haut Conseil national des réfugiés au niveau des Nations Unies. Il faudrait que la République démocratique du Congo bénéficie de financement pour ces cas qui met à mal le fonctionnement de la République.
Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM, émettant à Kinshasa, 3,7 millions de déplacés internes qui vivent dans des conditions humanitaires très difficiles.
C'est vraiment énorme, comme venait de le dire mon cher confrère Pius Roland, 3,7 millions en tout cas, c'est quand même énorme. Et il faut d'abord s'attaquer aux causes qui ont poussé toutes les populations à se déplacer. Et les causes sont légion. Il y a la cause principale, d'abord ces violences à répétition. Les guerres répétitives dans l'est de la République démocratique du Congo, avec ces phénomènes groupes armés qui ne parviennent toujours pas à trouver solution. Donc il y a eu quelque part une mauvaise gestion de cette question de la gestion bien sûr de groupes armés qui pullulent encore dans l'est de la République démocratique du Congo et tout récemment avec les violences dans le centre du pays, dans le Kasaï avec la milice Kamwina Nsapu. Je suis très content que mon cher frère Pius Roland ait reconnu la responsabilité des hommes politiques dans cette situation. Il faut également parler aussi de cette indifférence de la communauté internationale parce que elle se focalise beaucoup plus sur les cas des réfugiés et des migrants, mais la gestion de la question sur les déplacés internes, c'est une question secondaire au niveau de la communauté internationale. Je crois qu'il faut s'attaquer aux vraies causes. Il faut aussi parler de l'instabilité politique. Il y a des conflits, mais d'où viennent ces conflits? On ne peut pas simplement s'attaquer aux conséquences. La question des déplacés internes, c'est une conséquence. On ne va pas s'attaquer aux conséquences, mais plutôt aux causes. Les vraies causes, qu'est-ce qui a occasionné ces conflits? Il y a certains conflits, comme au Kasaï, qui pouvaient être évités, mais simplement parce qu'il y a certaines questions qui ont été mal gérées. C'est ce qui nous pose donc aujourd'hui à parler de cette situation qui est vraiment déplorable. Causant bien sûr une crise humanitaire plutôt aussi considérable.
Baba Isaac Alongi, journaliste analyste indépendant basé en Mbujimayi au Kasaï oriental. C'est vrai, les confrères ont incriminé la communauté internationale ici par sa lenteur, voire son indifférence pour certains analystes. Mais on se souvient que la RDC réclame sa souveraineté, son indépendance dans certaines matières.
Mais, chers confrères, vous savez que pour ceux qui lisent l'histoire de notre pays, pendant la colonisation, à l'ouest, il y avait les Zombo qui venaient de l'Angola, qui ont été bien accueillis, qui ont même été au point de devenir Congolais à part entière. Et à l'est du pays, dans la monnaie congolaise de l'époque, le franc, vous savez qu'il y avait Mami Paré qui est venu du Rwanda, mais qui était le Congolais installé au Congo, vivant au Congo. Maintenant, l'insécurité dans les pays Angola, Rwanda, Burundi, même l'Ouganda, il y a les amis et les frères de ces pays-là qui fuient leur pays, soit parce que le Congo, c'est un territoire où coule le lait et le miel, malgré qu'il n'y a pas de paix, ils viennent vers le Congo. Pour des raisons évidentes, vous devez savoir, pour apprendre l'histoire, il faut lire l'histoire, voir comment nous avons été colonisés et comment les frères voisins du Congo sont venus s'installer chez nous comme autochtones. Aujourd'hui, quand vous parlez des réfugiés ou bien des refoulés ou des gens qui ont fui leur pays à cause de l'insécurité qui sont chez nous, mais ce n'est pas un cas nouveau. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comment ceux qui gèrent la politique congolaise peuvent recevoir ces personnes qui viennent des pays voisins. Comment ces personnes qui viennent des pays voisins peuvent se comporter localement chez nous, sur notre territoire.
Baba Isaac, oui? La qualité de votre ligne tend à se détériorer. Est-ce que vous pouvez bouger un tout petit peu?
Ok. Donc, et la question hautement politique des gestionnaires en place au Congo qui peuvent savoir qui peut-on recevoir chez nous. Il vient pour quel intérêt? Est-ce qu'il vient pour s'associer au groupe des mutins pour faire la rébellion? Est-ce qu'il vient pour s'installer fuyant dans son pays? Est-ce qu'il peut se faire frère tous les Congolais qui vivent avec lui partout où ils peuvent s'installer?
Baba Isaac. Baba Isaac, puisque vous avez toujours la parole, très brièvement, avant qu'on aborde notre premier thème de ce soir, qu'est-ce qui fait l'actualité à Mbujimayi où vous vous trouvez?
Vous l'avez dit au début de l'émission, c'est le phénomène Kamuinasafu qui fait l'actualité. C'est aussi le problème d'eau, d'énergie électrique et du chômage. Donc, il n'y a pas de pouvoir d'achat à travers tous les deux Kasaï.
Voilà, merci beaucoup. Nous abordons notre premier thème de ce soir. Le procureur général de la République a annoncé avoir ouvert une enquête à charge du député national Clément Kankou. Au cours d'une communication faite à la presse mardi dernier, Florica Bangenumbi justifie l'ouverture de cette enquête par l'écoute d'une vidéo qui suspecte l'implication du député dans les affres de guerre perpétrées dans la province du Kasaï. Selon le procureur, l'experte des Nations Unies assassinée au mois de mars dernier avec son collègue américain détenait un enregistrement sonore du député en conversation téléphonique avec un des présumés auteurs matériels des actes déplorés au Kasaï. Le PGR estime que la nature et les circonstances de cette conversation ne peuvent nullement le laisser indifférent. On écoute le PGR Florica Bangé au micro de Jeff Ngoy.
J'ai été amené à ouvrir une enquête pour en savoir un peu plus. Et comme il s'agit des investigations visant un député national, faisant application de l'article 75 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, j'ai donc adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour me permettre de conduire des indispensables enquêtes dans cette sinistre affaire. Une fois cette autorisation préalable obtenue, je serai en droit de poser tous les actes qu'exige une instruction préjuridictionnelle. Si, à l'issue de cette instruction, j'ai la conviction que les faits étaient établis dans le chef du concerné, il serait alors, dans ce cas, inculpé de la participation à un mouvement insurrectionnel, de l'assassinat, des incendies volontaires, des destructions méchantes et de l'association des malfaiteurs. Il est toutefois impérieux de souligner qu'à ce niveau de la procédure, il n'est nullement question de chercher à obtenir la levée des immunités.
Pour sa part, le député Clément Cancou, désigné comme complice par le journal américain New York Times dans les meurtres perpétrés par la milice commune en Sapo, rejette toutes les accusations portées contre sa personne. Le député, visiblement gêné de ces accusations, a refusé de répondre aux questions des journalistes, laissant à son avocat le soin de le compléter. Et quant à la question de l'authenticité de l'enregistrement vidéo suspectant Clément Cancou, son avocat Maître Kilolo dit ceci.
Ben, il est sûr qu'à ce stade, ce serait prématuré de confirmer l'authenticité d'un tel enregistrement dont il résulte que le nom de l'honorable Cancou n'est pas explicitement cité. Nous laissons d'abord les enquêtes suivre leur cours et il va de soi que le plus important aujourd'hui, c'est que l'honorable Cancou est véritablement consterné par les affirmations d'implication.
Pius Roland Romain, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, émettant à Kinshasa, vous aviez, dans votre intervention précédente, commencé déjà à faire allusion à cette affaire. Comment vous vous expliquez que cet enregistrement qui date d'août 2016 surgisse en ce moment?
Bon, je me dis, comment d'abord ces experts des Nations Unies sont entrés en possession de cet enregistrement? Et qui se disent experts, est-ce que sont-ils des espions? C'est la question aussi à poser. Cela ne veut pas dire que je suis favorable à ce qui s'est passé au Kasaï. Je suis très consterné, d'autant plus que je suis intimement lié. J'ai de la famille là-bas. Mais je voulais rebondir sur la première question pour arriver à celle-ci. Les déplacer à l'interne, c'est la conséquence même de nos hommes politiques, le comportement de nos hommes politiques. La communauté internationale n'a pas encore des armées pour balkaniser le pays. Et pour balkaniser bien le pays, il faut déplacer la population. Et vous voyez ce qui se passe à l'Est. Et à l'Est, tellement qu'ils ont échoué, il y a les autochtones qui se sont mis debout pour dénoncer ce genre de choses. Voilà que le centre d'intérêt se déplace vers l'Est, et c'est au Kasaï, par un conflit communautaire. Il est évident que dans les temps passés, il y avait des conflits, mais on ne sont pas arrivés à ce point où les gens se massacrent, où il y a l'implication avérée des acteurs politiques. Alors, et comme le PGR l'a dit...
Peut-on déjà parler aujourd'hui, Pius Roland Romain, peut-on déjà parler de l'affaire Clément Cancou?
On doit en parler. Pourquoi nous devons en parler? Puisque la justice congolaise s'est saisie du dossier. Et qui s'est saisie du dossier? C'est le procureur général de la République. À ce stade, les députés incriminés et encore présumé innocent. Et le PGR a bien dit, il a ouvert une enquête, une instruction préjuridictionnelle. C'est-à-dire, à ce stade, on ne peut pas encore enlever les immunités des députés. Il faut qu'il y ait tous les éléments probants de l'implication du député. Peut-être il n'est pas seul. Peut-être il n'est pas seul. Et il y a d'autres implications que nous ne sommes pas en droit de le dire à ce stade, puisque vous savez que les dossiers judiciaires, ce sont des dossiers sensibles, très sensibles, et qu'il ne faudrait pas s'hasarder pour amener certains éléments de réponse au risque d'être appelé témoin à la barre. Je me dis tout simplement que si le procureur ouvre ses enquêtes et il s'avère que le député est incriminé, il faudrait qu'il réponde devant la justice et pourquoi il a fait ça. Et ce sont ses propres frères. Si tel est le cas, s'il faut le dire, ce sont ses propres frères. Dans le Kassai, sa circonscription électorale, qu'est-ce qui a poussé les dignes fils de la République démocratique du Congo de commettre ce genre de choses? Moi, je le dis, j'ai écrit dans l'avenir, je me dis, est-ce que ce n'est pas une manière de faire porter les chapeaux au gouvernement? Puisque le gouvernement est tellement tiré à boulet rouge par la communauté internationale qui cherche à tout prix mettre l'État congolais à genoux et n'ayant pas trouvé les gens sur qui se reposer, il commence maintenant à récupérer. Parce que nous avons toujours dénoncé le comportement des hommes politiques qui sont des acteurs très populaires à la télévision et dans les ambassades, alors qu'en réalité sur terrain, ils ne font absolument rien. C'est, moi je me dis, le procureur est en droit et la communauté internationale, comme les Nations Unies qui cherchaient à s'impliquer dans les enquêtes, je salue la diplomatie congolaise qui a demandé à ce que la justice militaire qui s'y penche sur ces dossiers et arrive jusqu'au bout.
Dominique Linanga, journaliste à la radio Top Congo FM et mettant à Kinshasa, Roland Romain, que vous avez suivi, suspecte, je dirais, qu'on fasse du gouvernement un bouc émissaire. Comment vous analysez cette affaire, vous?
D'abord, avant tout, mon frère, c'est vraiment une indignation. Je suis vraiment consterné. La question de la sécurisation de mes frères kassaïens, parce que je suis du Kassaï. Cette question n'est pas une question à traiter avec sourire aux lèvres ou avec beaucoup de légèreté, mais c'est une question vraiment qu'il faudrait traiter avec larmes aux yeux. Je me sens révolté parfois quand je vois une certaine légèreté avec laquelle on traite ces dossiers de mes frères kassaïens.
De la part de qui?
De la part, bien sûr, des personnes qui doivent être dévoilées à l'issue d'une enquête responsable. Nous avons tous subi ce qui s'est passé. D'abord, beaucoup de morts qui sont à déplorer avant même de parler de cette question de déplacements internes qui en est aussi une résultante. Mais il faut savoir que si aujourd'hui il y a des violences au pays, si aujourd'hui il y a cette problématique de guerre à l'est de la RDC et aujourd'hui dans le Kassai, c'est parce que il y a des auteurs qui continuent à jouir de l'impunité qui est en train donc de se transformer en mode de gestion, qui est en train de se transformer aujourd'hui en règle d'or. Si aujourd'hui on prenait des sanctions sévères à l'encontre des auteurs de ces crimes, je crois qu'il n'y aurait pas de problème aujourd'hui. Je crois que personne ne pouvait se permettre de continuer. Pour revenir à votre question, nous avons suivi les révélations du magazine américain The New York Times sur cette fameuse conversation de Clément Kankou qui est en train, c'était une conversation privée, il ne faut pas l'oublier. Mais la première question qu'il faut se poser est celle de savoir qui a enregistré cette conversation.
Et pour quel objectif?
Et pour quel objectif? Parce que c'est depuis le mois d'août 2016, aujourd'hui, plusieurs mois plus tard.
Qui a intérêt à faire surgir cette conversation?
Qui a mis cette conversation dans les réseaux sociaux et pour quel objectif? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et dans un gouvernement, dans un État responsable, la justice ne pouvait que se saisir de l'affaire parce qu'il s'agit tout de même, des accusations graves et surtout contre un député, un ancien ministre en fait. Ce sont des accusations graves et la justice devait se saisir du dossier. Nous avons salué la décision du procureur général de la République qui a parlé d'une enquête préjuridictionnelle. Bien sûr, c'est tout ce qu'il devait faire en tant que procureur général de la République, mais nous ne voulons pas qu'aujourd'hui on nous présente un coupable simplement parce que on veut incriminer quelqu'un.
Un bouc émissaire.
Nous ne voulons pas aujourd'hui qu'on nous donne un bouc émissaire parce que la pression de la communauté internationale est très forte. Il faut très vite qu'il y ait quelqu'un qui puisse porter ce chapeau. Nous voulons donc que la justice aille jusqu'au bout avec ses enquêtes et que ces enquêtes soient menées de manière indépendante, qu'il n'y ait pas de manipulation. Et si aujourd'hui Clément Kankou continue bien sûr de jouir de la présomption d'innocence au cas où il est coupable, ce qui est évident, c'est qu'il n'a pas agi seul.
Merci.
Qu'on puisse dénicher aujourd'hui tous les responsables
tous les responsables.
Si filière il y a.
Voilà. Parce que nous savons que ces conflits pouvaient être évités.
Merci.
Nous savons d'où est venu ces conflits. Nous savons qu'il y avait un petit problème. Chez nos Kassai, on dit, je donne la traduction littérale, on dit le feu, il faut l'éteindre quand il est encore petit. C'était une question coutumière, un petit conflit coutumier.
Qu'il fallait très vite gérer.
Les conséquences aujourd'hui sont ingérables.
Merci.
Pourquoi il y a eu une certaine négligence, alors tous les auteurs doivent être dénichés et punis.
Merci, cher confrère. Je reviens à vous tout à l'heure. Baba Isaac Alongi, journaliste, analyste indépendant basé à Mbujimayi au Kassai oriental. Comment de Mbujimayi vous suivez cette affaire?
Cher confrère, l'émission Tribune de presse est tout à fait pédagogique. L'objectif poursuivi par la fréquence de la paix, c'est pour renseigner la base, le peuple, lui donner l'information objective. Dans cette situation de Clément Kankou, PG, le pays et la communauté internationale, tout dépend du résultat auquel les uns et les autres veulent arriver. C'est ça que vous devez retenir. Les faits sociaux sont totaux et gromo. Vous devez retenir aussi que dans cette situation, il y a des boucs émissaires, il y a des présentateurs. L'information étant définie comme un fait social qui doit répondre aux cinq questions que toi tu connais, là où tu es, au studio, il faut savoir qui a fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. Donc, d'abord, c'est lui qui a enregistré la causerie ou l'entretien, il avait un objectif à atteindre, et c'est lui qui poursuit l'auteur de l'entretien entre Kamouna Safou et Clément Kankou. À ses objectifs, il a des résultats auxquels il veut atteindre. Donc, le New York Times, qui est la source fondamentalement américaine, mais qui livre l'information aujourd'hui, a un résultat auquel l'Amérique veut arriver. Donc, présentement, il faut laisser le temps au temps pour voir quelles seront les conclusions de l'enquête qui sera menée par l'OPG, et si Kankou est réellement responsable d'avoir causé avec les Kamouna Safou qui sont ressortissants de son territoire d'origine, ils répondent ces actes sans problème. Si ceux qui ont fait ce montage, si c'est un montage bien sûr, qui veulent aboutir à un résultat, soit de laver le gouvernement congolais, qui n'a pas sécurisé les populations de Libaya, qui n'a pas neutralisé Kamouna Safou, qui a une part de responsabilité, et en même temps, Kamouna Safou, qui a insécurisé aussi ses propres frères, qui a fait tuer les gens par son mouvement, qui est politico-mystique et religieux. Donc, attendons voir où est-ce qu'on va aboutir avec ce phénomène, les enquêtes qui seront menées par la communauté internationale et par la justice congolaise. Donc, c'est quand on arrive au résultat qu'on verra qui a fait quoi, au profit de qui et en cherchant quoi.
Merci Baba Isaac Alongi. Plus Roland Romain, certains analystes ont estimé qu'il y aurait un grain de sable déjà dans cette affaire du moment que la conférence de presse du député Clément Kankou a été empêchée mardi dernier par la police.
Bon, vous savez, les services de sécurité peuvent avoir les informations bien avant et laisser la personne arriver jusqu'au bout pour avoir les éléments probants. Mais ici, j'ai noté qu'on a parlé des auteurs des crimes qui sont impunis au Congo. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a impunité, mais il faut se dire pourquoi il y a cette impunité.
Et d'ailleurs, en parlant d'impunité, il y a des ONG comme ACAJ et d'autres qui ont dénoncé le fait que le PGR n'a pas réagi par rapport à d'autres dossiers brûlants, notamment le dossier passeport, Panama Papers, et ainsi que tant d'autres.
Non, je ne veux pas qu'on parle d'ACAJ. Vous ne savez pas là où se trouve le siège d'ACAJ. Ça se trouve dans un hôtel d'un opposant qui est en prison. Il ne faudrait pas qu'on ouvre ce dossier.
Ce n'est pas l'objet de notre émission.
Oui, ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas à nous d'instruire la justice. Vous savez, la justice, elle est indépendante. Vous pouvez avoir... La justice peut instruire les dossiers même pendant 10 ans.
Mais ce n'est pas... C'est le dossier sur lequel on attend le PGR et il n'a jamais réagi.
Ce n'est pas aux humains de dire au PGR, ça c'est un dossier brûlant. C'est au PGR de juger. C'est une justice indépendante. Moi, je suis vraiment esclave de parler en bien de mon pays. Mon pays est devant la communauté internationale. Vous savez que la communauté internationale cherche à tout prix mettre à genoux la République démocratique du Congo, puisqu'on a parlé des impunités, des crimes impunis. Mais écoutez, une fois qu'on s'est dit dans ces dossiers-ci, si tous les éléments sont réunis et qu'on dit que le député Kemo Kanku est coupable des crimes, de tous les griefs lui reprochés par le PGR, vous verrez, il y aura des ONG des droits de l'homme qui vont se mettre debout contre l'État congolais. Non, c'est patati patata. Non, Non, c'est ça le plus grand problème avec nos ONG. Nos ONG doivent aider l'État congolais. Si vous avez les éléments, que vous sachiez que c'est telle personne qui est incriminée, allez le présenter puisque la personne elle est devenue trop dangereuse pour la communauté. Mais au lieu que les personnes soient punies, les ONG de droits de l'homme sont là pour défendre même le criminel, sachant que telle personne, c'est un criminel, elles sont là pour le défendre. Je prends le cas. On a parlé de l'objectif de la dénonciation de cette vidéo. Mais oui, lorsqu'on se trouve devant le cas de Kamuina Nsapu, j'ai bien entendu mon frère Dominique qui a parlé, c'était un petit conflit qu'il fallait étouffer dans l'œuf. Mais ce petit conflit, les acteurs politiques l'ont profité pour en faire tout un grand événement où l'État congolais est devant la communauté internationale. C'est ces acteurs politiques qui n'aiment pas leur pays, puisqu'ils visent leurs propres intérêts personnels pour que le pays soit mis à genoux. Aujourd'hui, l'affaire dont a parlé Dominique Dinanga, mon frère, c'était une petite affaire communautaire et qu'il fallait mettre de côté. Mais aujourd'hui, on parle d'impunité. Effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'il y a beaucoup d'impunité. Mais lorsqu'on va commencer à punir, ce sont les mêmes ONG, c'est la même communauté internationale qui va commencer à dire il y a des prisonniers emblématiques, il faut libérer tel, il faut libérer tel. Là, il faudrait laisser la justice congolaise faire son travail jusqu'au bout. Et je lance un cri d'alarme. Ici, il faudrait que la communauté internationale laisse la justice congolaise, puisque nous avons de grands magistrats, nous avons une bonne justice pour preuve. Nous avons un Congolais qui a été désigné en République centrafricaine puisqu'on a estimé que la justice congolaise, elle est bonne.
Elle est capable.
Là où elle n'arrive pas à se saisir du dossier, nous avons la CPI
qui peut
se saisir, ou le tribunal africain.
Merci Pius. Dominique Dinanga, il y a une volonté manifeste de la part de la communauté internationale de mettre la RDC à genoux. On rappelle qu'entre-temps, la MONUSCO a aussi annoncé lancer son enquête à cet effet.
Mon cher confrère Pius Roland a dit bien de bonnes choses, mais quand il doit aujourd'hui incriminer la communauté internationale, là, je ne suis pas d'accord avec lui.
La mission première, c'est elle, à chaque fois qu'on cherche à punir, elle nous met les ambassades pour dire qu'il y a des prisonniers emblématiques.
Merci Pius. Dominique.
Merci beaucoup de me redonner la parole. Il ne faut pas incriminer la communauté internationale. Parfois, nous pleurnichons trop, c'est aussi la faiblesse des Congolais. La communauté internationale veut mettre à genoux la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la communauté internationale qui vous a empêché de bien gérer cette situation de Kamuina Nsapu. Ce n'est pas la communauté internationale qui a empêché aux autorités congolaises de tout faire cette histoire dans l'œuf. Ce n'est pas la communauté internationale qui a armé les Kamuina Nsapu. Ce n'est pas la communauté internationale qui doit sécuriser premièrement la RDC. Donc la sécurisation de la population congolaise est avant tout de la responsabilité des autorités congolaises.
Tout à fait.
Si vous êtes incapable de sécuriser votre propre population, alors ne pleurnichez pas. Si vous-même, vous vous mettez à tuer vos frères, ne pleurnichez pas. Alors il ne faut pas voir le diable seulement dans la communauté internationale. C'est vrai que il y a beaucoup de points négatifs dans la gestion de certaines questions de la part de la communauté internationale, mais il ne faut pas l'incriminer dans tous les cas. Voilà. J'étais en train de parler de la justice congolaise qui est aujourd'hui mise à l'épreuve. Aujourd'hui, la justice congolaise est mise à l'épreuve dans le sens que nous attendons des résultats probants. Nous attendons aujourd'hui connaître les vrais auteurs pour une fois Nous attendons que la justice congolaise aille jusqu'au bout de cette enquête. Mais il y a aussi des questions qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'on s'est empressé d'ouvrir une enquête sur ces allégations attribuées, bien sûr, à Clément Kankou? Bon, il n'a jamais nié lui-même l'appartenance de... C'est ses propos, bien sûr, cette conversation, et oui, il ne l'a jamais nié. Nous savons que c'était une conversation en privé, comme il peut bien le reconnaître. Mais pourquoi cet empressement de la justice congolaise sur les cas Clément Kankou? C'est une question qu'il faut également se poser, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des dénonciations. Vous avez parlé de Panama Papers, on n'a jamais ouvert une enquête.
L'affaire des passeports.
Nous avons cette affaire de passeport, il n'y a jamais eu d'enquête. En tant que justice responsable, je crois que le procureur général de la République devait se saisir de tous ces dossiers, de toutes ces révélations, et puis nous révéler aujourd'hui des vrais auteurs. C'est ce que la population veut connaître. Aujourd'hui, Pius Roland est en train de parler des prisonniers emblématiques et consorts. La population n'est pas naïve. Une décision bien responsable de la justice. On sait voir que c'est une décision responsable. On ne doit pas aller de la cuillère.
Merci. Baba Isaac Alongi, est-ce que vous êtes d'avis que la justice congolaise est mise à rude épreuve dans cette affaire?
Est-ce que, mon cher confrère, vous savez que le phénomène Kamwenan Safou, qui a débuté dans le territoire de Dibaya, district de Chimburu, relève d'un fait social coutumier ordinaire, qui est aggravé par le comportement des gouvernants. Parce que, au Kassai, les us et coutumes veulent que, pour mettre un remplaçant chef coutumier dans une chefferie, dans un groupement, dans une localité, il faut qu'il relève de l'arbre généalogique du clan ou de la tribu. Est-ce c'est le cas? Non. Qui sont à la base? Est-ce que le PJ a ouvert l'enquête pour voir quelle est la motivation réelle des responsables du Baya par rapport au phénomène Kamwenan Safou? Qu'est-ce qu'ils réclament de l'État congolais? Qu'est-ce qu'ils veulent que l'État congolais fasse pour eux? Donc, un fait social de cette dimension-là entraîne la mort d'homme, et l'État congolais continue à persister en nommant même quelqu'un qui n'est pas de l'arbre généalogique de Kamwenan Safou. Vous comprenez d'abord que la solution n'est pas trouvée pour la désignation du chef. Maintenant, les miliciens qui se mettent debout pour tuer leurs frères le font parce qu'ils exigent de l'État qu'ils nomment un responsable venant de l'arbre généalogique de Kamwenan Safou. Ça, c'est la première démarche. Deuxième démarche, à ce stade où nous nous trouvons, vous n'avez pas résolu. Le parquet ne s'est pas saisi de ce dossier pour dire aux gouvernants congolais, notamment le ministère de l'Intérieur, qu'il faut résoudre le problème de cette crise pour qu'on nomme quelqu'un qui sort de l'arbre généalogique du coin. Et en ce moment-là, il n'y aura pas contestation. Mais vous n'avez pas résolu ce problème. Vous voulez résoudre le problème de Kankou Clément qui cause avec ses frères de Libaya au sujet des miliciens et comment il en sort. Mais la base du problème, vous l'avez sauté, vous êtes déjà chez Kankou Clément.
Voilà, donc nous comprenons que ce n'est qu'une affaire à suivre, qui ne vient que de commencer, que nous n'allons pas clôturer dans cette émission. La réalisation me signale qu'il nous reste moins de 10 minutes pour notre deuxième thème, et donc nous allons y aller très rapidement. Tirer pleinement profit des dividendes démographiques en Afrique en investissant dans la jeunesse, c'est le thème retenu cette année pour la journée de l'Afrique, célébrée chaque 25 mai. En marge de cette journée, une conférence de presse a été organisée conjointement mercredi dernier à Kinshasa, par l'Union africaine et le Fonds des Nations Unies pour la population. Pour le représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine en RDC, une feuille de route a été adoptée au niveau de l'organisation pour la responsabilisation de la jeunesse africaine. Dominique Dinanga, journaliste à la radio Top Congo FM émettant à Kinshasa, 54 ans déjà depuis que l'Union africaine existe. De manière globale, quel bilan vous pouvez dresser de l'action de cet organisme à travers, en RDC particulièrement et en Afrique en général?
D'une manière générale, je vous dirais que le bilan est d'emblée négatif, très négatif d'ailleurs, quand on doit comparer ce que fait aujourd'hui l'Union africaine, comparativement bien sûr à l'Union européenne. Il fallait voir d'abord dans l'idée, donc à la genèse déjà, à la genèse, quelle a été, bien sûr, l'ambition poursuivie? Quelle a été l'idée principale en créant l'Union africaine? C'était bien sûr pour concurrencer l'Union européenne. Et quand nous voyons aujourd'hui ce qui s'est fait au niveau de l'Union européenne et ce qui s'est fait aujourd'hui au sein de l'Union africaine, nous trouvons que c'est vraiment le jour et la nuit. Je prends un exemple. Il y a 13 ans, que l'idée venait d'ailleurs du président sud-africain de l'époque, Thabo Mbeki, qui avait pensé qu'il fallait créer ce qu'on pourrait appeler panafricanisme, un parlement panafricain qui devait plus tard avoir un pouvoir législatif. Et en premier lieu, le parlement devait d'abord être un organe consultatif. Aujourd'hui, 13 ans durant, 13 ans après donc, ce parlement n'a toujours pas le pouvoir législatif. Et pourquoi ce parlement n'a pas de pouvoir législatif? La raison est bien claire. Dans un continent où tous les dirigeants veulent s'éterniser au pouvoir, il y en a qui disent que aujourd'hui, en tout cas, c'est un syndicat des dictateurs. Yes. Qui sont d'ailleurs dans l'Union africaine? Eduardo dos Santos, 37 ans au pouvoir. Sassou Nguesso, 33 ans au pouvoir. Yoweri Museveni, ils sont nombreux, tous ces gens.
Dominique, la comment, liste est-ce
que, comment est-ce que ces gens voudraient que le Parlement africain ait le pouvoir législatif s'il limitait, par exemple, le nombre de mandats?
Merci. Pius Roland Romain, journaliste à la radio-télévision du groupe L'Avenir, émettant à Kinshasa, Dominique parle d'un syndicat, d'un club des chefs d'État. Est-ce que vous partagez cet avis concernant l'Union africaine?
Non, je ne partage pas cet avis. C'est une organisation continentale. Il faut se poser la question en 63, pourquoi il y a eu naissance de ce qu'on appelait jadis l'organisation de l'unité africaine. C'était juste d'abord pour défendre l'indépendance. Les pays venaient d'accéder à la souveraineté nationale et internationale. Vous aviez le Ghana, vous aviez différentes Guinées, vous avez la République démocratique du Congo, vous avez l'Algérie, vous avez le Tchad, vous avez le Cameroun, vous avez le Gabon, le Congo, ces pays-là qui ont accédé à l'indépendance. Il fallait accompagner le chef d'État dans ce qu'on appelait l'organisation. Pourquoi? Puisque vous savez que la colonisation en Afrique, partant de notre colonisation ici en République démocratique du Congo, c'était une colonisation barbare qui n'a pas permis à la population d'accéder à la connaissance. Nous en avions que ceux qui ont été comptés au bout de main, et lorsque nous avons accédé à l'indépendance, vous savez ce qui est arrivé, il y a eu suite des morts d'hommes, des chefs d'État. Donc il fallait défendre la souveraineté nationale qui, malheureusement, avec le temps, ça n'a pas abouti. Pourquoi? Puisque il y a d'autres organisations
intercontinentales. Et dans la gestion des crises à travers le continent, Pius,
quel
bilan vous dressez?
La gestion des crises dans le continent, je dirais tout à fait que c'est un bilan qui est négatif. Pourquoi? Puisque l'UIA a laissé les pays africains être imposé par ce qu'on appelle l'Union européenne. Les pays africains ne sont pas membres de l'Union européenne. Il n'y a aucun pays, ni l'Algérie, ni le Maroc, ni la République démocratique du Congo, ni l'Égypte, ni l'Afrique du Sud qui appartiennent à l'Europe. Mais on entend souvent la communauté, l'Union européenne, de sanctionner le pays africain. Je me pose la question. Merci. Est-ce que l'Union africaine a-t-elle au moins sanctionné un pays européen? Merci. C'est ça la question.
Merci. Baba Isaac Alongi, on me signale qu'il nous reste au moins de 2 minutes. Journaliste, analyste indépendant basé en Mbujimayi au Kasaï oriental, en termes de perspective, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour rendre l'Union africaine plus efficace et plus efficiente?
Cette structure vit à la va comme je te pousse d'abord pour des raisons que voici. On ne construit pas un édifice sans une prévision ou une vision du propriétaire qui dit que le bâtiment doit porter 7 chambres, il faut autant de ciment, autant de moellons. Mais l'Union africaine a été fondée sur base de quel budget? Prévision budgétaire d'abord. Vous dépendez totalement de l'extérieur et vous voulez être souverain. C'est pas normal. L'Union africaine ne dépend pas des présidents africains qui doivent cotiser, qui doivent financer le fonctionnement de cette structure. Et elle est vouée à l'échec par ses propres initiateurs créateurs. Donc il ne faut pas aller à l'Union européenne quand vous ne savez pas vous-même voter un budget pour une structure que vous avez. Parce que toute structure dépend des animateurs. Les animateurs sont des présidents africains qui ont conçu la création de l'OIWA et ensuite de l'Union africaine. Mais sans budget, nous sommes à quel niveau aujourd'hui? Nous ne sommes nulle part.
Merci Baba Isaac Alongi, c'est par vous que nous terminons cette émission. Réalisation Berry Franklin Luchaka, mise en onde André Mongou, supervision Suzanne Jobo, présentation et coordination Alain Rung Mouchinj. Merci de votre attention et bon week-end à vous.